Depuis hier, l'Assemblée nationale se penche sur le projet de loi contre la fraude fiscale, suppression du fameux « verrou de Bercy », sanction à l'encontre des professionnels permettant les montages abusifs ou frauduleux. Les outils à l'étude sont nombreux et parmi eux, celui aussi du « name and shame ». Bonjour Émilie Cariou, vous êtes députée La République En Marche de la Meuse et vice-présidente de la Commission des Finances. Qu'est-ce que le « name and shame » ?
Alors, c'est la procédure qui consiste finalement à rendre publiques les sanctions pénales ou les sanctions administratives qui frappent les contribuables qui ont violé la loi.
Alors, comment ça pourrait se passer concrètement ?
Alors, concrètement, dans la loi, on a deux dispositifs très distincts. D'une part, la généralisation de la publication des peines pénales, qui aujourd'hui est optionnelle. Mmh. Donc là, dorénavant, le juge qui prononcera une peine pour fraude fiscale a pour consigne finalement de rendre publique cette peine, sauf s'il a des motifs sérieux pour ne pas le faire. Donc, on inverse la logique qui est aujourd'hui à l'œuvre. Et puis, pour les peines administratives, et ça, c'est une vraie nouveauté, sur les sanctions administratives qui sont appliquées lors des contrôles fiscaux, certaines peines pourront être rendues publiques à l'issue de ce projet de loi.
Comment vous faites la distinction ? Parce que ça n'est pas forcément évident pour le néophyte entre ces deux types de sanctions.
En fait, dans un cas de figure, on a des procès qui vont au pénal devant un tribunal. Et puis dans l'autre cas de figure, on est dans une procédure complètement administrative qui aujourd'hui est complètement couverte par le secret fiscal. Donc demain, on va lever le secret fiscal sur les sanctions qui seront mises à l'issue de certains contrôles fiscaux les plus graves, qui sont caractérisés dans la loi. Et d'ailleurs, avant la publication de ces sanctions, les dossiers passeront devant une commission administrative.
Mais alors justement, si on a une petite phobie administrative, si on fait un oubli, est-ce que dans ces conditions, on pourra être dénoncé ou en tout cas, est-ce que votre cas sera placé publiquement sur la place, sur Internet, je ne sais pas. Quel est le dispositif pour permettre de rendre public les fraudeurs, Émilie Cariou, vous qui êtes alors... députée La République En Marche.
Donc le simple oubli ne sera pas mis sur la place publique, je vous rassure. On est bien là sur des cas qui sont issus des contrôles fiscaux. À la fin du contrôle fiscal, on a des montants de redressement d'impôts assortis de pénalités financières très lourdes qui prouvent l'intentionnalité d'avoir voulu frauder l'impôt.
Qui, aujourd'hui, quel pays pratique ce genre de choses qui donne dans le name and shame, puisque c'est le terme anglo-saxon pour dire que l'on va publiquement dénoncer les fraudeurs?
Alors, beaucoup de pays le pratiquent autour de nous, mais vous savez, j'ai réalisé une mission d'information sur le verrou de Bercy. Dans ce cadre-là, je me suis rendue aux États-Unis pour voir ce qu'ils pratiquaient. Ça fait vraiment partie de leur objectif de politique pénale fiscale de publier, de rendre le plus public possible les sanctions pénales en matière de fraude fiscale. Pourquoi ? Parce que ils recherchent un effet dissuasif, à vrai dire. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que cet effet dissuasif, on peut le chiffrer ? Justement, l'effet dissuasif, il est difficile à chiffrer par nature. Mais en tous les cas, mieux sanctionner la fraude fiscale et rendre publique la peine de fraude fiscale, on estime que ça aura un effet dissuasif.
Alors si ça a un effet dissuasif, est-ce que c'est moral ? Est-ce que finalement, ça n'est pas pratiquer une double peine ou en tout cas, renouer avec des pratiques de délation ? Est-ce que c'est bien ça, le sens de la peine dans le droit français, Émilie Cariou ?
Alors le procès pénal, déjà, a cette vertu-là. Parce que c'est le but du procès pénal, non seulement d'appliquer une peine, mais qu'elle soit appliquée de manière publique. Donc ce n'est pas une histoire de morale, c'est une histoire de droit pénal, en l'occurrence, qu'on va déporter aujourd'hui sur du droit administratif. Alors, effectivement, je pense pas que c'est une double peine. Disons qu'on a sorti la peine d'un certain nombre de conséquences, dont cette publication.
Parce que aujourd'hui, on parle surtout du droit à l'oubli. Alors déjà, avec Internet, c'est compliqué parce que les traces demeurent. Est-ce que là, ça ne va pas aller à l'encontre de ce droit à l'oubli ?
Alors, ce n'est pas une publication à vitam aeternam. Là, il est prévu une publication pendant un an sur le site de l'administration. Donc, c'est une peine qui est quand même circoncise dans le temps.
Où en êtes-vous, par ailleurs, sur l'autre volet, qui est donc le fameux verrou de Bercy, où là, donc, il s'agissait de demander une autorisation pour poursuivre certains fraudeurs, Émilie Cariou ?
Alors, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire clairement qu'on a levé le verrou de Bercy, puisque le verrou, vous l'avez rappelé, c'était le monopole qu'exerçait le ministère des Budgets sur les poursuites pénales en matière de fraude fiscale. Donc, aujourd'hui, la procédure qu'on propose, dans l'amendement que nous avons défendu, c'est d'une part des transmissions automatiques de l'administration fiscale vers le parquet sur les cas les plus graves. Et d'autre part, et ça c'est une vraie révolution, et on lève un vrai tabou, c'est la levée du secret fiscal vis-à-vis du procureur et des parquets. Ce qui veut dire que le procureur, quand il aura des questions fiscales à poser à l'administration pour travailler sur des dossiers, l'administration aura le devoir de lever le secret et de travailler ce dossier avec le procureur.
Et puis alors, le dernier volet, c'est la fin de la fin de l'exit tax. L'exit tax, il faut rappeler en quelques mots, Émilie Cariou, en quoi ça consiste. Il s'agissait de la supprimer. Finalement, Emmanuel Macron a rétropédalé.
Alors, l'exit tax, c'était une taxe qui pesait sur les personnes physiques lorsqu'elles partaient habiter à l'étranger sur les plus-values latentes sur leur portefeuille de titres.
Donc, pour les très riches.
En gros, ça s'est cherché à éviter que demain, M. Erner aille se domicilier en Belgique pour liquider toutes ses actions et ne pas payer d'impôts sur les plus-values.
Même plus loin, d'ailleurs, que la Belgique.
Mais c'est très facile de le faire en
Belgique.
Et alors,
donc, il fallait être très riche pour avoir intérêt à le faire, évidemment, quand on vendait son entreprise. Et il y avait eu quand même une levée de bouclier quand Emmanuel Macron avait dit qu'il allait la supprimer. Finalement, il supprime la suppression. Ça veut dire que vous vous êtes rendu compte à La République En Marche que finalement, être le parti des riches, c'était quelque chose qui pouvait poser des problèmes politiquement.
Je ne pense pas qu'on se pose le problème dans ces termes-là. Vous savez, moi, j'appartiens à la Commission des Finances. À la Commission des Finances, on avait examiné les projets qui étaient sur la table. On avait vraiment... un peu secoué le directeur de la législation fiscale pour savoir quels étaient les projets réels, sachant que dans l'exit tax, il y a des choses qu'il fallait absolument garder en taxation, comme les plus-values dites en sursis d'imposition, qui sont des plus-values déjà réalisées et qui n'ont pas été imposées. Par ailleurs, pour les plus-values dites latentes, les fameuses plus-values que je réalise si je pars à l'étranger, là, nous, on demandait à voir quel serait un dispositif équitable, c'est-à-dire des mesures anti-abus. Il me semble que c'est absolument nécessaire. Pourquoi je vous ai cité la Belgique? Parce que la Belgique, c'est à chaque 50 km de chez moi, à Verdun dans la Meuse. Et donc, c'est très facile d'aller se domicilier en Belgique et de liquider ses plus-values. Demain, pourquoi ? Parce que c'est intéressant de le faire puisqu'on n'est pas taxé sur les plus-values.
Merci beaucoup, Émilie Cariou. Je rappelle que vous êtes députée La République En Marche de la Meuse et vice-présidente de la Commission des Finances.